L'actualité des Alpes du Sud et les Hautes-Alpes qui voient désormais le train de nuit Paris-Briançon circuler à nouveau.
9 mois à quai pour des travaux, il a repris du service dans la nuit de ce dimanche à lundi avec à son bord Joël Giraud, secrétaire d'État en charge de la ruralité, qui s'est longtemps battu pour ce train en tant que député alors qu'il était fortement menacé.
Et après, insisteront les urgences de Manosque, sont-elles menacées de fermeture la nuit?
C'était un temps envisagé, comme le confirme la direction du groupement hospitalier de territoire. Faute de praticiens et d'intérimaires, il n'y aurait plus eu d'autre choix.
La grève à Arkema Saint-Auban reconduite.
48 heures de grève pour un mouvement qui a commencé au début du mois. Les syndicats demandent une revalorisation salariale.
Et puis Merlin Longuet devant la justice.
Merlin Longuet du Café des Libertés de Fort-Calquier comparé devant le tribunal pour 16 infractions au port du masque, 12 participations à des rassemblements illégaux non déclarés. Hier, il ne s'est pas présenté à la gendarmerie. Côté ciel, c'est plutôt une belle journée.
Oui, le soleil continue de se montrer généreux sur nos deux départements, même si le ciel sera passagèrement voilé en cours d'après-midi. Les températures maxi 9 à 12 degrés sur les Hautes-Alpes, on montera jusqu'à 14 sur les Alpes de Haute-Provence. Il aura fallu le temps d'une grossesse pour revenir sur les rails.
Et c'est un retour réussi 9 mois après son arrêt pour le train de nuit Paris-Briançon. Depuis mars dernier, il était à quai en raison de travaux menés sur la ligne. Dimanche soir, depuis la gare d'Austerlitz, le feu rouge est passé au vert et à son bord, un ministre, Joël Giraud, le secrétaire d'État en charge de la ruralité. L'ancien député des Hautes-Alpes avait pris son billet pour embarquer à bord du train de nuit Paris-Briançon qu'il a tant de fois défendu comme parlementaire et dans son discours, toujours les mêmes arguments et la même volonté, faire du rail un moyen de transport normal pour les Français.
Aujourd'hui, on est sur un changement, je disais, complet de paradigme. Le train de nuit est redevenu un mode de transport intéressant sur le plan écologique, sur le plan de la desserte des territoires. Et j'insisterai beaucoup sur la desserte des territoires parce que si ici, à Briançon, mais dans d'autres endroits, si vous n'avez pas de train de nuit, eh bien vous êtes tout simplement définitivement enclavé. Donc le train de nuit est l'ossature même de la desserte et ensuite elle appartient aux régions de faire en sorte que les dessertes TER classiques en direction des gares TGV notamment, mais également des transports du quotidien puissent se faire. Les 74 millions d'euros qui viennent d'être investis sur la ligne de Valence à Vennes sont la démonstration que cette ligne est maintenant, j'allais dire, définitivement pérennisée. Sur Grenoble-Gap, les 37 millions d'euros, là encore, vont faire en sorte que cette ligne ne soit pas abandonnée au profit de la ligne de Valence. C'était important d'avoir la double desserte. Aujourd'hui, je crois que nous sommes repartis sur de bons rails. Il faut maintenant que la SNCF assure et assume en termes de desserte de manière efficace.
Le temps était aussi festif pour le collectif de l'Étoile ferroviaire de Vennes. C'est la grand-messe du rail pour Francine Dardenne, membre et élue sur Briançon. L'occasion de saluer ce retour indispensable sans oublier pour autant les problématiques restantes.
Dans le Briançonnais, c'était quelque chose d'important pour les Briançonnais d'une part. D'autre part, on est une ville frontière et c'est vrai qu'on a eu ce problème des migrants. Ils étaient coincés sur Briançon, ils ne pouvaient pas partir. Ça a généré des problèmes qui n'auraient pas dû être s'il y avait eu le train de nuit. Le train de nuit, on le sait, c'est moins de fatigue, on ne perd pas de temps, c'est très confortable. Bien sûr que tout va pas bien. Nous avons en tant qu'usagers encore des revendications, le risque de fermeture des gares et la fermeture des guichets qui ne semblent pas du tout adaptés aux besoins de la clientèle. Voilà, il y a vraiment beaucoup de revendications, des horaires qui ne sont pas forcément adaptés, etc., etc. Mais on voulait aujourd'hui rendre ce moment festif. Et ça nous a fait chaud au cœur d'être tous réunis pour ce moment.
Ce voyage à bord du Paris-Briançon a été aussi l'occasion pour le ministre Joël Giraud d'interpeller la SNCF alors que, à peine remis sur rail, le train se voit déjà être supprimé dans la nuit du 29 au 30 janvier prochain en pleine saison touristique en raison de travaux qui seront menés. Notez que les organisations syndicales de cheminots ont profité de ce retour pour se rassembler devant la gare de l'Argentière et dénoncer le projet de restructuration de la SNCF. 16 emplois de vendeurs pourraient être supprimé sur la ligne des Alpes entre Manosque et Briançon.
Après celle de Sisteron, les urgences de Manosque vont-elles fermer la nuit? La menace plane, selon la France Insoumise, dans les Alpes de Haute-Provence.
Le parti a saisi la presse ce week-end évoquant ce danger de voir fermer le service la nuit. C'était en effet envisagé, comme nous l'a confirmé la direction du groupement hospitalier de territoire. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on manquait de personnel. Alors que les urgences enregistrent 40 000 passages par an, 6 postes de praticiens à temps plein étaient vacants. Comblés dans un premier temps par des intérimaires, la mise en place du contrôle du paiement de ces salariés au mois de novembre a compliqué la situation. Il y a eu des défections d'intérimaires, explique la direction. La fermeture de nuit des urgences a alors été envisagée, comme l'avance Franck Pouilly, le directeur du GHT des Alpes-de-Haute-Provence.
Actuellement, on est en mode dégradé avec 2 urgentistes de nuit et on assure le SMUR externe et interne à l'hôpital de Manosque. Donc en fait, comme toute organisation, on prépare, donc on a mis en place un protocole en cas où, de fermeture inopinée. Quand il y a 2 urgentistes, si jamais un des deux a un accident de route, comme tout le monde, ça peut exister. À ce moment-là, il faut qu'on soit prêt. Donc on avait préparé une potentielle fermeture des urgences de nuit. Alors on a eu 3 dates au mois de novembre et on a eu 7 dates au mois de décembre, mais qui n'aura pas lieu puisque toutes les plages prévues ont été couvertes. Donc actuellement, jusqu'au 31 décembre, l'hôpital de Manosque ne ferme pas la nuit. C'est un sujet qui reste prévalent à cause de ce manque structurel d'urgentistes qualifiés sur le territoire national et sur Manosque.
La France insoumise des Alpes-de-Provence se dit inquiète tout de même alors que la situation concernant la santé est de plus en plus dégradée. Le parti demande un plan d'urgence pour l'hôpital public. Toujours dans le volet social, la grève continue à Arkema-Saint-Auban. Ce n'est pas le seul site du groupe en France à être touché par ce mouvement. Ils sont 13 à mener des blocages. En cause, les NAO, les négociations annuelles obligatoires qui accouchent d'une souris selon les syndicats. Eux demandaient une revalorisation salariale de 100 euros par mois. La grève est donc reconduite pour 48 heures. Selon la CGT et la CFDT, Arkema perdrait jusqu'à 7 millions d'euros par jour de grève.
Alors lui s'était fait un nom lors du rassemblement anti-masque. Il est quasiment devenu depuis le porte-parole de ceux qui s'opposent aux restrictions sanitaires.
Merlin Longuet du Café des Libertés de Fort-Calquier sera devant la justice aujourd'hui. Au printemps dernier, souvenez-vous, ce jeune homme de 26 ans a participé à des rassemblements dans la cité comtale, rassemblements non déclarés et sans masque. Il comparaît donc aujourd'hui devant le tribunal de Digne-les-Bains pour 16 infractions au port du masque, 12 participations à des rassemblements illégaux non déclarés. Même si son avocat avait soulevé une question de constitutionnalité qui depuis a été retoquée. L'audience aura donc lieu. Alors que Merlin Longuet a reçu ce lundi une convocation à la brigade de gendarmerie de Fort-Calquier, le manosquin ne comptait pas s'y rendre. Il craignait d'être placé en garde à vue et ainsi être absent de ce procès qu'il a souhaité pour ouvrir un débat, dit-il, politique et idéologique.
Il y a beaucoup de gens qui attendent de ce procès-là parce que énormément de personnes sont dans une situation de détresse par rapport à la soumission qu'on leur impose depuis maintenant plus d'un an. Donc on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour maintenir ce procès, pour pouvoir discuter des vrais problèmes de fond. On est en train de se cantonner par rapport à tout ce protocole sanitaire, à des peurs, à l'anxiété de ce qui pourrait se passer dans le futur par rapport à une possible pandémie, parce que c'est ce qui se passe depuis un an et demi. Mais en fait, là, nous, on s'alarme du bilan du passé, en fait. Hein. On s'alarme de ce qui s'est passé, on s'alarme de ce qui se passe, autant chez les adultes que chez les enfants, plus particulièrement chez les enfants, parce que le bilan psychologique et social est vraiment catastrophique, sans parler de l'économie, ça on s'en fout. Mais en fait, on a des gens, nous, au Café des Libertés, c'est ce que ça nous a permis de faire. Hein. On en est là, un peu moins d'une centaine de désobéissances civiles dans lesquelles on rassemble vraiment beaucoup de personnes qui viennent nous témoigner de leur vie au quotidien et de la détresse sociale vers laquelle on les pousse avec des restrictions de liberté qui s'instaurent maintenant dans notre société et avec lesquelles on n'est pas d'accord et dont on aimerait bien débattre, en fait.
Une mobilisation sera organisée à partir de 13h, un concert en scénarisant l'arrivée au tribunal pour montrer, je cite, l'aberration de ces accusations, car pour Merlin Longuet, il est jugé pour pique-nique et barbecue. Notez finalement qu'en cas de condamnation, il compte d'ores et déjà faire appel.
Politique et un nom sort du chapeau pour les législatives de 2022.
À 29 ans, le président de Les Républicains dans les Hautes-Alpes vise les fauteuils rouges de l'Assemblée nationale. Kevin Parra est candidat pour les législatives de 2022 sur la première circonscription du département alpin avec ce thème de campagne « Faire mieux pour le territoire ». Il avance des engagements simples avec 3 marqueurs qui font pour l'instant sa candidature.
Je pense qu'il faut des engagements simples, mais simplement vous donner les marqueurs qui feront cette campagne. L'emploi et la formation des jeunes dans les Hautes-Alpes. Je pense que malheureusement, il y a un certain nombre de nos jeunes concitoyens qui savent la chance qu'ils ont d'être dans les Hautes-Alpes, mais qui n'ont pas la chance de pouvoir y revenir ou de pouvoir y rester pour étudier et pour y trouver un emploi. Deuxièmement, les déserts médicaux. Aujourd'hui, pour prendre rendez-vous chez le dentiste, vous devez attendre quelques mois. Et c'est pareil pour tout un certain nombre de spécialités où malheureusement, vous êtes obligé de partir dans d'autres villes, par exemple Aix-en-Provence. C'est une thématique qui doit être portée et nous devons faire légiférer pour que, par exemple, il y ait plus de stages effectués pendant les études de médecine et qu'il y ait plus aussi de maisons médicales créées. Les déserts médicaux, l'emploi des jeunes, la simplification aussi. La simplification de la vie des Français, qu'elle soit au travail, libérer le travail, flexibiliser le travail, arrêter d'embêter les Français. 75 codes législatifs, nous avons plus de 300 ou 400 000 normes.
Voilà, Kevin Parra, candidat Les Républicains sur la première circonscription des Hautes-Alpes. Concernant la seconde, toujours pas de nom avancé par le parti.
Et c'est un jeune retraité pour la gendarmerie des Alpes de Haute-Provence, Glock rend son képi.
Glock, c'est le chien du groupe d'investigation cynophile. 8 ans au service des militaires, il a découvert, comme le souligne la gendarmerie, moult kilos de produits au cours de sa carrière. À 10 ans, désormais, Glock va rejoindre le foyer de son maître, l'adjudant-chef du groupe d'investigation cynophile. Glock laisse sa place à Raïs, berger belge malinois d'un an et demi, fraîchement diplômé du Centre national d'instruction cynophile de Gramat en juillet dernier. Il a une spécialité, c'est Sambi, pour recherche de produits stupéfiants, armes, munitions et billets de banque.
Alpin Sport. Alpin Sport.
Et les Diables Rouges ont leur défense.
On parle hockey sur glace à la suite du départ surprise de Martin Lendak et une infirmerie toujours bien remplie avec notamment Kevin Higier. La défense briançonnaise avait un besoin urgent d'être renforcée. C'est chose faite désormais avec l'arrivée de Kristaps Bacevic, âgé de 27 ans. Ce gaillard laiton d'1m89 pour 94 kilos n'arrive pas en terrain inconnu dans les Hautes-Alpes. Il a déjà porté les couleurs gapençaises en 2017 lors du dernier titre de champion de France des Rapaces. En 19 matchs, le natif de Riga était impliqué sur 9 buts avec 3 réalisations et 6 passes décisives. Cependant, c'est bien son expérience et son impact en défense que les Diables Rouges sont allés chercher en le recrutant en Lettonie. Et finalement, toujours dans l'actualité briançonnaise, le match de la 29e journée de Ligue Magnus prévu ce soir contre les Scorpions de Mulhouse a été reporté à ce vendredi en Alsace.
Et puis une fois n'est pas coutume, Karim Guerfi devra attendre février pour remonter sur le ring.
Oui, alors qu'il devait défendre ce samedi son titre européen des poids plumes, remporté en août dernier, le Manosquin a dû prendre son mal en patience. En effet, la blessure de son challenger britannique Jordan Gill a chamboulé le calendrier du bas alpin qui a ainsi pu un peu plus profiter de sa famille et déconnecter de ses séances d'entraînement. Un répit de courte durée car même si la date n'est pas encore officiellement fixée, le combat devrait se tenir courant février à Liverpool. Notez finalement que Karim Guerfi a été début décembre honoré par sa ville de cœur, Manosque, avec la salle de boxe du complexe Omnisport qui a été renommée Salle Guerfi. Une reconnaissance pour le boxeur de 34 ans qui pourra également y admirer une fresque de sa carrière réalisée par le peintre Christophe Avella-Bagur.
L'actu des Alpes du Sud continue sur alpe1.com.